Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profond encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Un livre a toujours deux auteurs, celui qui l'écrit et celui qui le lit, a dit Jacques Salomé. C'est un extrait de « Si je m'écoutais, je m'entendrais ». Et moi, je me dis que chez Vues et Voix, il y en a trois. On pourrait dire un livre a toujours trois auteurs, celui qui l'écrit, celui qui le lit et celui qui l'écoute. Alors bienvenue, vous êtes sur Canal M, c'est Clotilde Seille et ses invités qui vont vous tenir compagnie dans cette nouvelle édition de l'émission « À livre découvert ».
La table des matières.
Alors aujourd'hui, pour la deuxième fois, et j'en suis très heureuse, je vais m'entretenir avec Suzanne Vida, qui va nous partager avec passion une de ses lectures. Je vais recevoir Mathieu Prost, chroniqueur, journaliste à ici Radio-Canada Télé, notamment pour le téléjournal de 18h. Nous allons également faire un gros plan sur une sortie de livre, et j'ai choisi Homeland de Andrew Kaplan. C'est ce qui a précédé la célèbre série, mais c'est le livre qui l'a précédé, c'est fort intéressant. Je reçois une nouvelle fois, et c'est toujours avec beaucoup de plaisir, Isabelle Falardeau, bénévole ici chez Vues et Voix, longtemps bénévole également et aussi recherchiste avec nous, ici sur Canal M. Ça va bien, Isabelle ?
Ça
je
va
vous
très
dis bonjour
bien,
à vous, parce
bonjour.
Que je vous êtes déjà arrivé, mais je ne suis pas inquiète pour Mathieu, je sais qu'il est en chemin. Vous savez, entre Radio-Canada et ici, il n'y a pas loin, alors je sais qu'il va arriver juste à temps. Il y aura aussi la chronique de Bouche à oreille, la page de littérature. On parlera de Meurtre et autres sucreries de Jo Suarez que nous présentera Gérald Cousineau la semaine prochaine. Et puis, Ma mère est un flamant rose de Francine Ruel, dont viendra nous parler mon amie France Castel si elle vient la semaine prochaine. On ne sait jamais, mais à mon avis, elle devrait être là. Et puis aussi, on parlera de Mordecai Richler, dont certaines des œuvres vont être retraduites parce qu'apparemment ça laisse à désirer. Et nous terminerons l'émission, bien sûr, par quelques titres en rafale.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Suzanne Vida, bonjour Suzanne.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci vous.
Oui, très très bien. Puis j'étais heureuse de vous retrouver parce que la première fois quand je vous avais dit bon alors on remettra ça, vous m'avez dit oui c'est un rendez-vous, mais on ne sait jamais. Parfois les gens ils n'osent pas tout ça. Alors je suis contente qu'à nouveau vous soyez des nôtres. Suzanne.
Et moi aussi, je suis heureuse d'être là.
Suzanne, vous vous êtes attaquée à un gros morceau. On va parler du début du gros morceau, en
oui.
sachant que nous avons presque l'ensemble d'enregistré au SQLA. Je vous laisse présenter le tome 1 de cette série.
Oui, donc il s'agit d'un magnifique livre qui a de nombreuses pages. Ce sont des gros livres.
Oui.
Mais c'est un roman historique et oui, effectivement, il y a 8 volumes. C'est Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon.
Oui.
Récemment, la première tombe s'est ramassée sur la liste des best-sellers du New York Times parce qu'il y a un poste américain qui a décidé de faire une série télévisée
oui.
basée sur cette série. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de ramasser le premier volume. Et c'est un roman historique qui est très particulier parce que c'est une histoire, le scénario commence juste après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit d'un couple, Claire
Beauchamp-Randall,
qui est mariée, elle est infirmière. Elle est mariée à un professeur de l'histoire, Frank Randall. Il se ramasse à Inverness, qui est en Écosse. En lune de miel, parce qu'ils étaient séparés pendant longtemps durant la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, il étudie sa généalogie de sa famille. Et ils visitent, ils font un peu les touristes et ils se ramassent dans les fameuses pierres de Stonehenge.
Oui, oui, oui.
Et dans, ils témoignent une espèce de rituel pagan. Et Claire, un peu plus tard dans l'histoire, retourne à cet endroit-là pour ramasser des plantes. Elle est herboriste aussi. Elle a une passion pour les oui. plantes. Elle ramasse les plantes et elle se dirige vers un certain bruit qui la transporte dans l'histoire, dans les années 1740.
Donc, 200 ans plus tôt.
Oui, 200 ans plus tôt. Donc, il y a un petit peu de fantastique dans ouais. ce roman historique, mais ça joue bien dans l'histoire. Et elle se ramasse justement dans cette région de l'Écosse à la fin des révoltes jacobites.
Mm-hmm.
Et elle participe dans les tentatives de remettre James, le roi Jacques II, sur le trône britannique et écossais.
Je cherche le terme pour vous aider, pauvre de vous, et rien ne me vient, je suis malheureuse, mais on a très bien compris ce que vous vouliez nous dire,
Suzanne. Oui, oui, et donc elle tombe en amour avec ce monsieur, en mm-hmm. sachant, en comprenant qu'elle est maintenant dans une autre époque,
mm-hmm.
et elle se marie avec lui pour se sauver la vie,
oui.
et il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'histoire, on apprend vraiment beaucoup plus sur les révoltes de cette période-là dans les îles britanniques, et l'implication des Français dans tout ça. Mmh. J'apprends beaucoup, mais c'est pas mal drôle aussi parce qu'elle utilise des termes qui sont pas encore dans le vocabulaire de ce siècle. Et
un genre les visiteurs un petit peu plus sérieux quand même, quoi.
Oui, 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 mais justement, juste le terme désinfectant ouais. n'existait pas.
Ah bah oui.
Elle passe à travers beaucoup d'obstacles pour essayer de retourner dans le temps de 1940 et retrouver son mari qu'elle a laissé derrière elle.
Mm-hmm.
Et là, je suis en plein milieu du deuxième volume et c'est encore du va-et-vient entre les deux périodes. Mais je vous en parlerai peut-être une autre fois.
Oui, j'aimerais ça. Vous savez que quand vous dites qu'il y en a 8, en fait, moi, je pense qu'il y en a 9. Hein, et le 9e est en production, si je ne m'abuse.
Ben, je sais que je ne connais pas le titre en français, mais le numéro 8 est sorti au mois de juillet ou août dernier oui. en anglais. Et ils ont annoncé ça étant le dernier numéro. Elle a commencé à écrire cette histoire-là en 1991. Mm-hmm. Et là, on se ramasse déjà quasiment 24 ans plus tard. Oui, c'est très long.
Mais vous, est-ce que vous avez l'impression que vous allez lire ça les uns derrière les autres? Parce que là, vous en avez
oui,
pour un an
oui,
ou deux.
Moi, j'ai l'intention. Oui, je me suis dit, je vais commencer. J'ai commencé le 1er décembre. J'ai commencé le 1er décembre le deuxième volume.
Mm-hmm.
Et je l'attaque petit à petit. Mais j'ai l'intention de le terminer à la fin de l'année, là, toute la série.
Et on parle, vous savez, à un moment donné, moi, je fais toujours des recherches et je vais toujours voir ce que des lecteurs ont à penser, parce que je n'ai pas lu hein, cette saga, et il y en a un qui dit que c'est écrit tellement petit sur 700 pages, alors je me dis, bah, finalement, au moins là, il y aura un avantage de pouvoir l'écouter, parce qu'apparemment, c'était vraiment écrit en plus très, très petit, c'est très dense. Hein.
Oui, c'est très dense, je pense que, juste en termes d'heures d'écoute, le premier, je pense, pour moi, c'était 32 ou 34 heures,
oui. Ah, oui.
Le deuxième est maintenant 38, puis je sais qu'il y a le numéro 5 et 6, là, on monte dans les cinquantaines d'heures d'écoute, là. Je veux même pas savoir c'est quoi la taille de la police pour ces deux-là.
Mais Suzanne, est-ce que vous savez ce qu'ils en ont fait pour la télévision? Est-ce que c'est basé simplement sur le tome 1 ou sur l'ensemble de l'œuvre?
Oui, pour l'instant, c'est juste le tome 1.
Okay.
La série avait commencé, c'est bien certain, je pense que c'est sur HBO, je suis pas certaine du poste, mais c'est mm-hmm. en anglais. Ça a commencé au mois de septembre et donc ils n'ont pas encore terminé la première saison.
Mm-hmm.
Et les épisodes que moi j'ai pu voir jusqu'à présent, oui, c'est basé sur le tome 1. Ils ne sont pas rendus encore... plus loin que ça.
Alors, une saga qui nous permet d'explorer une région, mais aussi une histoire. Hein. On est dans les Highlands, Highlander, parce que celui finalement dont elle tombe amoureuse, c'est un Highlander. Je ne pense pas déflorer quoi que ce soit. Il y a de l'aventure, il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a de la romance.
Mais il y a beaucoup d'intrigues.
Il y a beaucoup d'intrigues, parce qu'à un moment donné, il y avait une lectrice qui disait, moi, là, quand on me dit romance, je fuis. Ah oui, voilà, je l'ai ici, romance. Alors, pour ceux qui me connaissent un petit peu, moi, question livre, la romance, j'en veux pas, j'ai énormément de mal avec les parties romance. Je ne sais pas, je dois être trop cynique, trop acide, mais je trouve que tout ceci manque cruellement de naturel, de crédibilité, etc. Mais là, elle dit, avec le chardon et le tartan, je me suis totalement imprégnée de cette histoire entre Claire et... Comment vous l'appelez, Jamie, Raimi?
James.
Ah d'accord. Parce que là, c'est J-I-M-E, je ne savais pas trop comment l'appeler. Donc, que j'ai trouvé, elle dit, successivement drôle, touchante et profonde. Alors, vous confirmez, Suzanne Vida, qu'il faut lire, même si c'est énorme, mais le chardon et le tartan, ça vaut le coup de s'arrêter sur cette histoire.
Tout à fait.
Suzanne, jamais 203.
Merci.
Alors, à très bientôt sur nos
Merci,
ondes.
Merci, à très bientôt.
Au revoir,
vous.
Suzanne, et bonne journée.
Bonne journée.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Et l'invité spécial, c'est notre ami Mathieu Prost. Bonjour Mathieu.
Bonjour Clotilde.
Mathieu, c'est une prise 2 parce que, comme je l'avais expliqué lorsque les choses sont arrivées le 7 janvier dernier, c'est une date maintenant qui va rester gravée dans nos mémoires. Et avec le métier que vous faites, en l'occurrence vous êtes chroniqueur, journaliste, notamment pour ici Radio-Canada Télé, notamment au journal de 6h, 18h, ouais. Eh bien on imagine que ce 7 janvier dernier, avec les événements de Charlie Hebdo et tout ça, vous m'avez téléphoné, vous m'avez dit que Clotilde, je ne peux absolument pas venir. Et bien sûr, on avait compris. Alors, merci d'être là aujourd'hui.
Mais ça me fait plaisir de faire cette prise 2 avec vous.
Vraiment. Alors, Mathieu Prost, vous avez pu entendre le son de sa voix. On n'est pas vraiment surprise qu'il fasse du journalisme. Dites-moi quelque chose, n'importe quoi. Dites-moi ce que vous avez mangé ce matin, tiens.
Malheureusement, ce matin, si, je me suis régalé d'un morceau de gâteau d'une amie, un gâteau, ce fameux gâteau de Noël avec plein de fruits confits. Ouais. Cette même amie qui m'a recommandé le livre dont je vais vous parler aujourd'hui.
Oh, alors, quel lien merveilleux. Alors, non, mais tout ça pour vous faire entendre quand même la voix de cet homme-là que je rêvais donc d'avoir à mes côtés. Oui, je lui ai dit, mais avec tout ça, parce que vous avez quand même un métier qui vous réclame pas mal de temps.
Je dois
dire que c'est vous qui faites la chronique Le Monde en Bref, entre autres.
Hein. Exactement, ce qui est un petit segment, d'une minute trente ou deux minutes, mais qui exige beaucoup de préparation et de travail en amont.
C'est vous qui écrivez tous les textes qui sont là?
Oui, c'est moi qui écrit les textes, qui cherche l'information via les agences de presse, qui cherche les visuels et qui confie ça ensuite au bon soin d'un monteur professionnel comme... Radio-Canada,
on a beaucoup.
Et qui nous fait, tous les jours, une petite pépite d'informations internationales pour nous ouvrir un petit peu sur l'extérieur. Ouais. Parce que le TJ 18, ça a beau être le TJ Montréal, eh bien, ça ne veut pas dire que les Montréalais n'ont pas le droit d'être informés sur l'actualité internationale.
Alors, sans compter, mon ami, qu'on sait que malheureusement, on n'ira pas trop sur cette pente-là, mais on sait qu'il y a de moins en moins de reporters qui sont envoyés sur le terrain. Donc, ces brèves-là sont d'autant plus importantes.
C'est une autre pente, effectivement, sur laquelle on pourrait dévaler, Clotilde. Mais,
ne le faisons pas. La tour est si proche d'ici, vous savez.
Elle est juste
en face. J'aurais juste peur qu'elle nous tombe dessus. Vous êtes aussi, je voudrais le dire avant qu'on parle de ce livre, vous êtes aussi bénévole. Vos lecteurs ici.
Oui, et c'est probablement cette qualité aussi que je suis dans ce fauteuil aujourd'hui, parce qu'on s'est déjà croisé ici dans les couloirs de Vues et Voix. Ça fait un peu plus d'un an que je donne de ce temps-là le plus que je peux, mais souvent ce n'est qu'une fois par semaine.
Mais alors, c'est déjà pas mal.
Alors voilà, non, c'est avec un grand plaisir. Moi, ça m'apporte beaucoup et j'espère donner beaucoup à ceux qui écoutent. Je pense particulièrement à l'une de mes collègues, Claudine Bourbonnet, qui a écrit un livre récemment qui a connu un bon succès, Métis Beach.
Oui, dont nous avons parlé ici.
Oui, exactement. Puis qui avait tenu à ce que je sois la voix de son Romain, pour deux raisons. Parce qu'on s'entend bien, elle et moi.
Ouais.
Et aussi parce que dans sa famille, il y a des personnes qui utilisent le service de Vues et Voix, qui utilise ces formats-là spécifiques et donc qui lui a permis à cet homme-là d'entendre la, la plume de sa fille ou de sa petite fille.
Oh, c'est génial.
Voilà, grâce à Vusez-Voix. Alors, ouais, c'est un grand plaisir.
Vous savez, c'est important de nous raconter ça parce que pour nous, il est essentiel que les gens à qui nous nous adressons soient aussi incarnés. Parce que souvent, on rentre dans ces petites cabines-là et on a tendance à rentrer faire de la lecture. Non.
Non. Et là, c'était tout le contraire parce que quand je lisais ce livre-là, je savais notamment, je pouvais avoir en tête une personne précise à qui je m'adressais. Mm-hmm. Et donc, on y met peut-être encore plus de cœur à ce moment-là.
Ouais. Alors, je précise que ça ne fait pas si longtemps que cela que vous avez commencé à lire chez nous et que le livre dont vous nous parlez aujourd'hui, ce n'est pas vous qui l'avez lu.
Non, mais malheureusement, j'aurais beaucoup aimé lire ce livre, mais il est sorti beaucoup trop tôt. Il est sorti en 2011.
Vous nous le présentez, le titre, l'auteur ?
Les Frères Sisters, c'est un livre de Patrick DeWitt, donc sorti en 2011. C'est un auteur de l'ouest du Canada, de Vancouver, et puis c'était son deuxième livre. Le premier s'appelait Ablution, qui était sorti un an plus tôt chez Actes Sud.
On l'a aussi d'ailleurs. J'aimerais bien qu'on vérifie l'information, mais je pense qu'il a été enregistré aussi. J'avais regardé, me semble-t-il.
Ouais. Alors que je n'ai pas lu Ablution, ma curiosité a été évidemment piquée après celui-ci, parce que il a eu droit à beaucoup d'éloges. Hein, ce livre-là, les critiques ont été quand même assez dithyrambiques. Et alors présentons-le.
C'est ça.
On est dans l'ouest des États-Unis, fin du 19e siècle. Et on est en compagnie des frères Sisters. Alors évidemment, déjà le nom du livre est particulier. Ils ont un nom de famille qui ne marche pas très bien avec leur profil à eux. Ces deux frères-là, ils sont relativement sans vergogne. C'est des gens qui tuent allègrement et sans trop se poser de questions. Quoique, et c'est justement là le nœud du livre, c'est un livre qui a la première personne. Et c'est le plus jeune des deux frères, Ellie, qui raconte l'histoire. Et ce qui est intéressant, et c'est pourquoi le livre est aussi bien fait à mon sens, c'est parce qu'il distille tout au long du livre des pensées un peu philosophiques. Une espèce de réflexion sur son activité, sur le sens de leur profession, entre guillemets. Et on sent qu'il regrette un petit peu finalement de s'être embarqué dans cette pente-là, alors que son frère, Charlie, lui, il n'a aucun regret, il n'a aucun remords, il tue à tout va, il se saoule, il mène une vie de brigand comme on en connaît. Lui, Ellie, non, il se pose beaucoup plus de questions. Et puis, dans la plume de Patrick DeWitt, on sent que ça pourrait effectivement être les mots d'Ellie sont des mots choisis, avec un vocabulaire soigné, avec des tournures de phrases parfois qui sont un peu anachronique par rapport à la fin du 19e siècle. Mais voilà, on embarque avec eux dans une aventure où ils sont obligés d'aller vers l'ouest, vers la Californie, pour tuer quelqu'un. Ils ne savent pas trop pourquoi.
Ouais. Et c'est leur dernière mission, je pense. Hein. Ils aimeraient arrêter.
En tout cas, Ellie aimerait ça, ça devienne sa dernière mission. Alors, c'est toute la question au fur et à mesure du livre. Est-ce que leurs chemins vont se séparer ? Est-ce qu'ils vont finir par se mettre d'accord ? Est-ce qu'ils vont se disputer, se réconcilier ? Parce que leurs caractères sont manifestement diamétralement opposés. Et voilà, est-ce que ce sera leur dernière mission ? Est-ce qu'ils vont y arriver ? Donc il y a du suspense, mais il y a quand même vraiment, vraiment beaucoup d'humour, je trouve.
Paraît. Hein. Et beaucoup d'émotions. Il paraît qu'il y a des petits moments d'émotion. En tout cas, c'est ce qu'un lecteur, à un moment donné, il dit ici, attendez, les grosses... Voilà. Et parce que même les grosses brutes ont un cœur, on a également droit à quelques brefs, mais assez touchants moments d'émotion.
Oui, alors c'est ça qui est aussi, moi, je trouve très marrant. C'est parce que à peu près toutes les personnes qu'ils croisent sur leur chemin, elles meurent presque toutes, hein, à quelques exceptions près.
Pas forcément parce qu'ils les tuent.
Non, mais souvent. Souvent. Et ce qui est drôle, c'est que oui, il y a de l'émotion, mais l'émotion, elle est rarement avec les humains. Quoique parfois, parce qu'il y a une histoire un peu amoureuse qui va se dessiner. Mais surtout, ce qui est drôle, c'est que l'émotion, elle est avec les animaux.
Ouais,
elle est avec leurs chevaux.
C'est ça.
Et notamment Ellie, qui lui, n'arrive pas à se débarrasser, pas de se débarrasser, mais à abandonner son cheval, qui est un peu estropié, qui n'est pas très performant, qui n'est pas le meilleur cheval au monde. Mais il est attaché sentimentalement à ce cheval-là, ce qui ne l'empêchera pas d'aller tuer un brigand ou un chercheur d'or qui va croiser sur sa route. Donc oui, de l'émotion, mais une espèce d'émotion un peu vétérinaire, un peu bizarre.
Oui, c'est ça. C'est parce que c'est là-dedans qu'il y a une scène épouvantable, justement. Ah oui, où il faut enlever un œil.
Oui, parfois c'est vrai qu'il faut,
avec
faut
une petite
effectivement avoir le cœur un peu accroché
okay.
par parce que oui, il y a des scènes qu'on nous décrit, oui, enlever un œil à la cuillère. Mais en même temps, c'est écrit avec tellement de drôlerie et de finesse qu'on passe dessus. On passe dessus. C'est sûr qu'à un moment donné aussi, on voit un bout de cervelle sous un talon. C'est pas très agréable à imaginer, mais le fait est que c'est enrobé avec un peu d'humour noir et puis beaucoup de détachement. Donc non, ça passe très bien. Puis il faut quand même noter que c'est particulièrement bien traduit. On en a parlé juste avant l'émission. Oui, c'est important parce que, comme je disais, que j'aurais aimé lire ce livre-là. Notamment parce que les dialogues sont très bien ciselés.
Ouais, c'est savoureux.
La plume est vraiment fine, délicate, puis percutante à beaucoup de moments. Donc, c'est un livre qui demande du cœur pour le lire vraiment, puis d'y mettre du sien. Et il invite vraiment à ça. Et non, c'est très bien traduit.
Alors, je vous rappelle qu'il est question du livre qui s'appelle Les Frères Sisters. Et c'est signé par Patrick DeWitt. Je voudrais épeler DeWitt parce que c'est en un seul mot. Et c'est D. Et le D est en majuscule, hein, en principe, je pense. Enfin, je l'ai vu écrit de plusieurs manières. Ici, je vois que c'est en minuscule.
Sur la couverture,
mais
il est
je l'ai vu, par exemple, au SQLA, je pense que le D est en majuscule, E minuscule, et ensuite le W revient en majuscule, I de T. Alors, c'est pour ça que je le précise, pour que vous puissiez éventuellement le prendre en note, ou alors si vous allez faire des recherches. Et j'aimerais, Mathieu, que vous nous en lisiez un extrait, s'il vous plaît, Mathieu Prost.
Ben, volontiers, on peut le situer un petit peu. On est plutôt dans la première partie du livre, on est dans le premier chapitre en tout cas. Et c'est au moment où les deux frères arrivent dans une ville. Ils sont un peu tout crottés tous les deux, puis ils s'arrêtent chez un tailleur, parce que le plus grand des frères, sa chemise est déchirée. Il veut acheter une chemise. Et là, il va y avoir le début déjà du questionnement sur pourquoi on fait ça. Alors allons-y. Une jeune fille enceinte, remarquablement laide, surgit alors du rideau, tenant à la main un torchon fumant. Elle me le lança et retourna sans un mot d'où elle était venue. Tandis que j'étais aux prises avec le chiffon chaud, le passant d'une main à l'autre pour le refroidir, le vieil homme me prodigua une explication. « Auriez-vous l'amabilité de nettoyer vos mains et votre front, monsieur? Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser salir nos articles par les clients qui entrent ici. » Je commençais à m'essuyer pendant qu'il se tournait vers Charlie, occupé à essayer une chemise en coton noir avec des boutons pression nacrés. « Voilà qui vous va à ravir, » dit le vieillard. Charlie se tenait devant un grand miroir et examinait la chemise sous toutes ses coutures. Il me regarda et désigna d'un doigt le vêtement, en demandant en levant légèrement le sourcil. « Elle est très jolie, » dis-je. « Je la prends, » dit Charlie. « Et que pensez-vous de ça pour votre ami ?» demanda le vieil homme en posant le chapeau chocolat sur ma tête. Charlie me regarda de profil, puis demanda à voir comment le noir m'allait. Alors que le vieillard avait repris le chapeau chocolat et venait de poser le noir sur ma tête, Charlie opina du chef. « Si tu as besoin d'un chapeau, nul besoin d'aller voir ailleurs, tu ne trouveras pas mieux qu'ici. Et je crois que j'aimerais bien essayer le bleu tant qu'ils y sont. » Je saute un peu pour aller plus loin. « Plus joli que d'avoir à tuer quelqu'un, acquiesça-t-il. » Et là, Ellie reprend. « Je crois que je pourrais aimer une vie comme ça. Parfois, je pense à ralentir la cadence. N'était-ce pas agréable à l'intérieur, avec toutes ces lampes allumées et l'odeur des vêtements neufs ?» Charlie secoua la tête. « L'ennui me rendrait fou. La fille muette surgirait pour la centième fois de son trou, et je lui mettrais une balle dans la tête ou dans la mienne. » Cela m'a semblé une occupation de tout repos. Je parie que le vieillard dort chaque nuit sur ses deux oreilles. « Tu ne dors pas bien la nuit ?» me demanda Charlie avec le plus grand sérieux. « Non, » répondis-je. « Et toi non plus. Je dors comme une souche, » protesta-t-il. « Tu pleurniches tout le temps et tu gémis. »
Mathieu Prost sur les ondes de Canal M, qui était l'invité d'un livre découvert. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Les Frères Sisters de M. Patrick DeWitt. Mathieu Prost, je vous laisse retourner à votre travail. Au moins, vous n'avez pas loin à aller. Vous avez une rue à traverser.
Non, juste un coin de rue à traverser. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était très agréable.
Ça m'a fait plaisir.
Avec plaisir.
Et merci à vous de faire ce que vous faites aussi pour Vues et Voix. Merci.
Chapitre 3.
Le chapitre 3, le gros plan sur une sortie de la semaine. J'ai choisi un livre que vous attendiez peut-être avec impatience. Il s'agit de Homeland de Andrew Kaplan. Oui, ça vous dit quelque chose parce qu'on parle bien de cette série qui a été diffusée assez récemment sur les ondes de Télé-Québec. Mais en fait, non, je vous induis en erreur là. Il ne s'agit pas de la série. Il s'agit du livre qui a précédé la série. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Ce Homeland de Andrew Kaplan, Kaplan K-A-P-L-A-N, tout simplement. Nous sommes à Beyrouth, nous sommes en 2006 avec Carrie Mathison, qui était cet agent de la CIA, de la CIA, qui se rend à un rendez-vous avec un contact dont le nom de code est Nightingale. Mais c'est un piège, et c'est un piège dont elle réchappe de justesse. Elle en déduit qu'on a infiltré le QG de la CIA. Elle s'en ouvre à son supérieur. Ça provoque un conflit violent. Carrie est aussitôt renvoyée à l'Anglie. Carrie, qui est incroyablement douée comme nana, qui est très fragile aussi, qui souffre de troubles bipolaires, qui l'handicapent beaucoup, mais qui lui permettent aussi de reconnaître et d'anticiper des schémas comportementaux bien particuliers. Alors bien sûr, elle cache ses troubles pour protéger sa carrière. Carrie qui se persuade qu'un complot se trame et qui veut retourner à Beyrouth à tout prix. Alors elle demande de l'aide à Saul Berenson, son boss, qui n'est pas du tout le Saul, l'avocat qu'on a connu. On ne va pas mélanger les séries. Comment s'appelait la série que j'adore? Breaking Bad, merci beaucoup. Non, là, c'est un autre Saul. Donc, elle demande de l'aide à Saul Berenson, son boss, son mentor, son confident, celui qui l'a recruté quand elle était à Princeton. Mais le chef du contre-terrorisme, David Estes, est un homme habile et très politique et il rejette sa demande. Alors, elle ne se peut plus, elle est complètement hors d'elle. Elle n'a plus de temps et elle risque le tout pour le tout et comme acte d'insubordination qui lui permet, elle, de découvrir une preuve qui relie Nightingale à Abu Nazir, le chef d'Al-Qaïda en Irak. C'est pas simple, mais il paraît que le livre est très, très bien écrit et que vraiment, on ne peut pas s'y perdre. Et une fois que vous l'aurez lu, vous allez certainement tomber avec grand plaisir dans Homeland, la série, qui en ce moment est encore présentée sur Netflix. Malheureusement, il n'y a pas de vidéo description là-dessus. Par contre, il y a des sous-titres si vous êtes capable de pouvoir éventuellement. Ils sont quand même écrits assez gros et on peut même augmenter ou pas le format. Alors, si cela peut vous aider à suivre Homeland... quelques critiques dans les journaux. Le 30 décembre 2013, dans la presse, on lisait ceci. Avec la traque, l'auteur Andrew Kaplan signe un roman qui se déroule avant le premier épisode de la série Homeland, je vous le disais, et qui nous aide à comprendre davantage le personnage de Carrie Mathison. Et ce phénomène de la fiction dans la fiction n'est pas nouveau, mais il est toujours aussi fascinant. Et puis dans Châtelet, on disait, pour les accros, c'est du bonbon. Pour les autres, une porte d'entrée dans cette brillante série télévisée. Citation, ça passe ou ça casse. Et au Moyen-Orient, être une femme n'est pas une excuse. Si tu merdes, si tu déconnes, t'as une chance sur 100 d'en réchapper. Et même si tu t'en sors vivante, t'es définitivement grillée. Beyrouth a l'air civilisé comme ça, plein de boîtes de nuit, de jolies femmes en vêtements, griffées, des restos de luxe, les gens les plus sophistiqués de la planète. Mais il ne faut pas s'y fier, c'est toujours le Moyen-Orient. Un seul faux pas, et ils auront ta peau avant de retourner faire la fête. C'est une citation extraite de Homeland de Andrew Kaplan que je vous présentais aujourd'hui sur les ondes de Canal M.
Vous écoutez À Livre Découvert avec Clotilde Seille et ses invités.
La chemise à Jean-Pierre Siakam, le chandail à Dylan Lonlon, la culotte à Monique aussi, et les bas bleus, blancs, rouges du fiston, le bonnet de grand-mère Siakam, et les trois édredons, don, don, ni peu, ni la peu, ron, 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 et la veste en mouton à Gaston, que tout. Du vent, que regarde les yeux du soleil,
que chante la flûte de la nuit. Vous l'avez deviné, sacré Monique. Dans sa chemise à Jean-Pierre Thiago, le chandail à Dylan Lolon, la culotte à Monique aussi, et les bras bleus, blancs, rouges du fiston, le bonnet de grand-mère Thiago, et les trois édredons, don, don, nipperie, napperon, ron, ron, et la veste en mouton à Gaston.
Chapitre 4. Le bénévole du jour.
Ou plutôt la bénévole du jour que j'amène. Bon, c'est pas très original d'amener la corde à linge, Isabelle Falardeau, le livre dont vous allez parler, avec, sur la corde à linge de notre ami Félix qu'on vient d'entendre. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la seule idée que j'ai eue.
Il y a des liens comme ça qui s'imposent.
On est d'accord. Ouais. Je me suis dit, je suis pas pour mettre la machine à laver sous prétexte que c'est la corde à linge.
Mais surtout que Félix, quand on l'écoute, ça nous ramène toujours un peu en arrière. Et c'est un peu ce qui va arriver avec les protagonistes principaux de la corde
livre.
À linge.
Alors, la corde à linge de Max Ferrandon, je vous l'appelle F-E-R-A-D-R-A-N, pardon, D-O-N, Ferrandon, comme ça se prononce. Et c'est donc Isabelle Falardeau, bénévole ici, qui vient nous le présenter.
Oui, j'ai eu la chance de lire ce livre-là dans le cadre, je pense que c'était dans le cadre d'un marathon de lecture, mais...
Oh.
Où j'étais hors série parce que il y avait pas assez de livres sur le thème. Il y a souvent un thème là,
pour le marathon, mais
c'était hors thème. Mais je l'ai lu, évidemment, ça ne m'a pas pris tout le marathon pour le lire. Ça se lit vraiment tout seul et c'est vraiment intéressant. C'est un livre, bon, de littérature jeunesse. J'ai un peu la voix, on prête souvent ma voix à des romans jeunesse, mais c'est de la vieille jeunesse, là, si on veut.
OK, oui, parce
peut-être
que...
Peut-être pas
oui.
aussi vieille qu'avec le dernier livre dont je vous avais parlé, qui se passait à la Nouvelle-Orléans, mais quand même...
Parce que c'est pas une écriture... évidente, je veux dire, même pour les jeunes.
C'est
pas pensé pour les jeunes au niveau de l'écriture, c'est
d'ailleurs,
ça que je
veux dire. D'ailleurs, la collection Gasoline, dont ça fait partie, offre un petit... une catégorisation, si on veut, derrière le livre, où on peut voir initiation, lecteur expérimenté ou lecteur audacieux. Et c'est un livre qui est classé lecteur audacieux.
Voilà.
Mais c'est vraiment, c'est de la poésie à chaque page. Chaque phrase est une métaphore presque, ou une métaphore ou une autre figure de style. En fait, ça serait un livre idéal pour introduire les différentes figures de style dans un cours de français au secondaire. Ouais. C'est vraiment très, très coloré.
Alors, c'est quoi cette corde à linge?
Mais l'histoire de la corde à linge, c'est deux jeunes Anglais qui vont passer leurs vacances. Leurs parents viennent d'acheter une vieille maison toute déglinguée qu'ils doivent reglinguer dans un vieux village, un village français épargné par le progrès, selon le texte au dos du livre. Mm-hmm. Et donc, les deux jeunes, pendant que leurs parents retapent la maison, eux, ils décident d'installer Internet parce qu'il n'y a évidemment pas Internet dans le village. Et ils vont faire ça avec une corde à linge. Donc, je pense pas que ça se puisse dans la réalité, mais dans le livre, c'est possible de connecter. Donc, ils se branchent sur la ligne du téléphone et ensuite, ils plantent des poteaux et ils connectent tout le village avec une corde à linge. Et là, tout le village se branche sur Internet. Bon, ça cause plein de choses. Il y en a qui arrêtent de traire leurs vaches. Mais ça, c'est vraiment parallèle. C'est pas central au roman, mais c'est vraiment... donc, ils vont finir par décider de faire la plus longue corde à linge. Je pense qu'ils vont rapidement gagner le prix de la plus longue corde à linge au monde. Mais ils vont finir par se rendre compte qu'ils peuvent remonter dans le passé avec cette corde à linge-là. Donc, non seulement amener le futur au petit village, s'en servir pour revenir dans le passé. Il y a le personnage de la voisine qui s'appelle... pas Rosalie.
Est-ce que c'est la Madame Gaillot?
La mère Godillot.
La mère Godillot.
Oui. Léonie, c'est ça. Et donc, elle, son mari n'est jamais revenu de la guerre. Et ils vont un peu aller à sa recherche avec leur corde à linge.
Si vous le voulez, je vous propose d'entendre un extrait lu par vous, parce que c'est justement le début du livre où on présente Madame Godillot, qui aurait pu donc s'appeler aussi Madame Pompe ou Madame Grogne, puisque un Godillot, c'est qu'en langage fleuri français, c'est ça, c'est vraiment pour dire une chaussure finalement. Alors je vous propose de vous écouter finalement, et je propose aux auditeurs de vous découvrir en train de lire un extrait de La corde à linge, c'est le début, un livre de Max Ferrandon.
Chapitre 1. La vie tranquille du village. Les Anglais débarquent. La mère Godillot était une vieille madame toujours habillée en noir, de la tête aux pieds, du début à la fin. Le jour, elle vivait en noir. La nuit, elle dormait en blanc. Elle portait ainsi la couleur du deuil, car son mari n'était jamais revenu de la guerre. Il s'était perdu sur le chemin du retour, il y avait longtemps. La guerre, c'est toujours comme ça. Tandis que les soldats sont occupés à se battre contre l'ennemi, les officiers démontent le chemin du retour et le jettent dans les buissons ou dans une rivière. Voilà pourquoi il est toujours si difficile de revenir de la guerre. Dans la maison de Léonie, c'était tout petit et c'était plein de plein. Du plein souvent mal rangé. On aurait dit que les vieux journaux s'empilaient sur les années. Une simple petite télévision en noir et blanc, comme elle, la reliait au reste du monde. Elle regardait les informations en mangeant de la soupe aux poireaux. Les nouvelles étaient toujours bonnes quand elle mangeait de la soupe aux poireaux. Mais quand c'était de la soupe à l'oignon, alors là, tout allait mal. Les inondations, la politique, les impôts, la politique encore. Tous les soirs, avant de s'endormir, elle peignait soigneusement ses longs cheveux gris, comme une rivière argentée, une magnifique rivière de cheveux. Elle ne les avait jamais coupés. Son mari les aimait tant. C'était presque l'été, enfin, pas tout à fait, et ça sentait encore les lilas. Le lilas, c'est cet arbre qui se prend pour un flacon de parfum, alors que le pommier, lui, se prend pour une tarte.
Extrait.
Et voilà, et ça continue comme ça tout au long du livre.
C'est délicieux, c'est délicieux. C'est pour ça que j'ai choisi cette petite musique-là, que malheureusement vous n'entendrez pas sur l'enregistrement, mais c'est parce que moi j'aime ça embellir un petit peu. Je trouve ça tellement délicieux. Et on a demandé à Jennifer Tremblay, et la directrice littéraire de ce livre-là. Tiens, d'ailleurs, c'est une Tremblay. C'est rare en France, c'est pas un nom...
Mais en fait, c'est un roman québécois, vous
C'est
savez.
Un roman québécois. Oui. Ah, alors j'ai tout faux.
Voilà.
Parce que je pensais que c'était...
Ça se passe en France et c'est plein d'expressions françaises, mais c'est vraiment un auteur québécois.
D'accord. Et donc, elle dit, cette Madame Tremblay, elle dit, au départ, j'aimais la personnalité de Max et son travail, donc Max Ferrandon, l'auteur. Mm-hmm. Elle dit, c'est quelqu'un de tellement léger, fantaisiste et sensible en même temps. Et ça, j'adore ça. On dirait au départ une bulle de savon qui flotterait au soleil, mais on se rend compte après coup à quel point cette bulle est résistante au choc. C'est joli, hein?
Très joli. Mais oui, c'est vraiment ça. C'est un livre, ce genre de livre où la destination importe moins que le chemin qu'on prend pour y arriver. Ouais. Donc, chaque phrase est un plaisir. On y parle des Anglais qui visitent la France comme une carte postale en y mettant un timbre le temps des vacances. C'est vraiment... Donc, c'est ça, il y a plein de trucs rigolos. C'est farfelu, là, il y a
bien
pas...
Sûr. Bien sûr,
mais,
c'est une fable.
On rit un peu des Anglais, on rit un peu des Français, mais vraiment toujours avec beaucoup de bonhomie. Les méchants sont peut-être pas assez méchants. Ils sont un peu plutôt très stupides. D'ailleurs, ils s'appellent... Je pense qu'ils s'appellent Lobo et Tommy, là.
Oui, c'est ça, oui. Lobo et Tommy, oui.
Mais bon, c'est ça. Les méchants ne réussissent pas à arriver à leur fin, comme dans tout bon... livre
mais c'est pas
jeunesse.
Grave. Oui, c'est ça. Bon, puis peu importe. Quoi. De toute façon, c'est, comme vous dites, c'est pas vraiment l'histoire, c'est tout ce que ça véhicule, cette chose-là. C'est
exactement.
En tout cas un petit roman très, très délicieux que j'ai bien hâte de lire et dont Mme Jennifer Tremblay a dit qu'après l'avoir lu, cette corde à linge, on aime un peu plus la vie.
J'ai pas de mal à le croire. Ouais, moi, ça m'a fait ça.
Ça vous a fait ça un peu.
Oui, c'est resté avec moi pendant un bon moment. après l'avoir lu au marathon.
Eh bien, c'était une très bonne idée de venir nous en parler. Isabelle Falardeau, bénévole chez Vues et Voix, qu'on retrouvera évidemment à un moment donné à cette émission en livre découvert. Au revoir.
Chapitre 5. De bouche à oreille, une page de littérature.
Mes amis, j'en ai même pas une page de littérature, j'en ai deux à vous offrir. D'abord parce que la semaine prochaine, nous allons retrouver avec plaisir Gérald Cousineau qui va venir nous parler d'un livre qui s'intitule « Meurtre et autres sucreries » de Jo Suarez. Nous sommes dans le Rio de Janeiro de l'immédiat avant-guerre, là où sévit un tueur en série qui a une particularité, il ne s'attaque qu'aux femmes très grosses. Il faut savoir que Jo Suarez est une grande vedette brésilienne, c'est un véritable touche-à-tout des communications, c'est un auteur complètement atypique, à l'humour corrosif. Il possède, et c'est indéniable, l'art ineffable du spectacle. Et alors, pour dessert donc, il nous offre des crimes violents sous un sourire mielleux. Nous sommes au Brésil. Et à l'époque de l'Estado Novo, qui est instauré par le dictateur Getúlio Vargas, on fait la connaissance d'une firme de pompes funèbres qui s'appelle Styx, qui est fondée par la famille Eusebio, qui règne sur le marché de l'enterrement de luxe. Et le seul héritier, qui s'appelle Charon, aurait voulu devenir musicien au lieu de convoyer des morts. Mais sa mère brime toutes ses ambitions. Et lorsque son père se suicide, le fameux Charon assassine son obèse de mère. Et il passerait le reste de sa vie à se venger de cette femme en sillonnant les rues de Rio de Janeiro dans un corbillard aménagé en pâtisserie ambulante. C'est vous dire un peu. Bonjour la folie, l'ambiance là-dedans. Pour attirer les gourmandes et pour les tuer.
Ben, on n'aura jamais aussi bien dit que le sucre cause notre mort.
Exactement. Alors, vous l'aurez compris, c'est un livre très, très coloré et surtout très, très calorique. Et j'ai un extrait pour vous.
La grosse est la dernière cliente à quitter la confiserie Colombo après le traditionnel thé de l'après-midi. Elle emprunte la Rua Gonçalves Dias en direction de la Rua do Ouvidor. Son chemisier blanc est assombri par une quantité infinie de taches de sauce et de soupe. Des miettes anciennes s'accrochent comme des naufragés désespérés au revers de son manteau. La grosse est belle. Belle et vorace. En passant la porte de la confiserie, elle tient encore dans sa main gauche une demi-part de tarte aux fraises et dans la droite, un énorme éclair au chocolat. Ses doigts sont crispés autour de ses friandises, comme si sa vie en dépendait. Elle est grosse, belle, vorace et surtout gourmande. D'une gourmandise effrénée.
J'ai juste envie, je ne sais pas vous, mais d'entendre Gérald Cousineau avec sa verve légendaire et son verbe haut nous parler de ce livre-là dont je vous rappelle le titre « Meurtres et autres sucreries » de Jo Suarez. La semaine prochaine, en principe, si tout va bien, je devrais recevoir France Castel qui m'a dit « Je veux parler de tel livre, opinons de tel autre, opinons de tel autre ». Et finalement, on en est arrivé à « Ma mère est un flamant rose » de Francine Ruel. Petit extrait, tiens, pour vous situer tout de suite. Elle était minuscule et elle prenait toute la place. Avec sa voix rauque, voix de fumeuse, voix de femme déterminée, elle en imposait du haut de ses 5 pieds, juchée en permanence sur des talons aiguilles. Elle passait ses journées debout, à travailler sans relâche, et ce n'est qu'une fois à la maison, brisée de fatigue, qu'elle acceptait de descendre de cette plateforme qui semblait lui permettre de tout contrôler. De tout diriger. L'homme de la maison, c'était elle, Mado, ma mère. Enfin, ce qu'était devenu ma mère après, parce qu'il y a eu un avant. Alors voilà, c'est un extrait de Ma mère est un flamant rose, mais j'en ai un autre extrait pour vous, tel que vous l'entendrez si vous allez chercher ce roman de Francine Ruel, dont viendra nous parler France Castel la semaine prochaine.
Je suis née un 14 avril, aux aurores. Cette date fut mémorable bien des années avant ma naissance. Au cours de la nuit du 14 au 15 avril, un paquebot géant, le Titanic, a emporté avec lui des milliers de personnes dans l'immensité des eaux glacées. Il eût été facile de comparer ma naissance à un naufrage. Un jour, quelqu'un m'a fait penser qu'en étant né un 14 avril, J'avais tout probablement été conçu un 14 juillet. Je veux croire qu'au moment de ma conception, il y a eu entre mon père et ma mère un gigantesque feu d'artifice. Grâce à ce 14 juillet explosif et à ce 14 avril titanesque, je suis faite de feu et d'eau. Je dois me taire en classe et dans les corridors. Je dois me taire en classe dans les corridors et au réfectoire. Je dois me taire en classe dans les corridors, au réfectoire et au dortoir. Je dois me taire en classe dans les corridors, au réfectoire, au dortoir et à la chapelle. Franchon n'en finissait plus de copier ses phrases. Assise devant son pupitre, vêtue de son costume de pensionnaire, une robe noire à manches longues, munie d'un petit revers blanc du même tissu que le collet au bout pointu, elle s'appliquait, penchée sur sa copie. Ses fines nattes glissaient sur son cahier. Il y avait de la rage dans son ventre, plein de rage. Elle faisait bon ménage avec la faim qui la taraudait. Franchon étreignait sa plume de ses doigts bleuis par la colère et par l'encre. Elle noircissait des pages et des pages, tandis que les autres pensionnaires s'amusaient en récréation, à l'extérieur par beau temps ou dans une salle de lecture les jours de pluie. Dans sa tête, un refrain qu'elle répétait en boucle. « Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. »
Voilà un extrait du livre de Francine Ruel, « Ma mère est un flamant rose » dont devrait venir nous parler la semaine prochaine France Castel.
Des nouvelles et des livres.
J'aime bien associer une nouvelle à des livres que nous possédons au SQLA et je suis tombée sur celle-ci qui date du 22 janvier. Oui, je sais, vous pouvez penser que c'était déjà il y a 2 semaines, mais souvent nous enregistrons l'émission 2 semaines en avance pour tout vous dire, des petites choses, de la cuisine interne. Oh, vous savez, c'est comme maintenant. Moi, j'ai dit toujours, il y a des caméras partout à la télévision. Ben, moi, c'est ma petite caméra. Moi, je vous dis exactement comment les choses se passent. Donc, nous sommes aujourd'hui beaucoup plus près du 22 janvier que du 11 février, finalement, date à laquelle vous entendrez peut-être pour la première fois l'émission, à moins que vous l'écoutiez en reprise dans la semaine sur Canal M. Et le 22 janvier, dans Le Devoir, j'ai vu cette nouvelle, c'est Jean-François Nadeau qui nous dit que la maison d'édition montréalaise Boréal a acquis les droits en langue française de 5 romans de l'écrivain anglo-américain Mordecai Richler. Les lecteurs francophones de l'œuvre de Richler se plaignaient très souvent, à raison, de glissements de sens dans les versions françaises aujourd'hui disponibles. Et la réalité nord-américaine et la sensibilité propre au milieu culturel dont fait état Richler ne semblaient pas toujours bien servies. C'est donc une excellente nouvelle. Les nouvelles traductions seront signées par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné, 2 traducteurs aguerris. La publication des 5 œuvres sera échelonnée entre 2015 et 2017, ont annoncé les éditions du Boréal. Décédé en 2001, faut-il le rappeler, grand nom de la littérature canadienne, Mordecai Richler a suscité plusieurs fois la controverse. Même si les romans de Richler se déroulent à Montréal et comptent parmi les plus célèbres incarnations littéraires de la métropole, plusieurs traductions ont été faites en France et reflétaient une grande méconnaissance du contexte montréalais et québécois, indiquent les éditions du Boréal. Vous souhaitez certainement que nous lisions chez Vues et Voix ces nouvelles traductions. C'est tout le bonheur que je nous souhaite. La demande, en tout cas, sera faite. Vous pouvez compter sur moi. En attendant, je suis allée voir. Alors, nous avons au catalogue de Mordecai Richler la première traduction, rue Saint-Urbain. Nous avons l'un de ses plus célèbres, l'apprentissage de d'Adi Kravitz. Nous avons aussi Le Monde de Barney. Et puis nous avons Joshua au passé, au présent. En attendant, si vous voulez vous replonger, peut-être pour faire justement une comparaison entre l'ancienne traduction et la nouvelle. Moi, je trouve que ce serait peut-être intéressant d'avoir les deux côte à côte. Alors voilà.
Je serais bien volontaire, moi, pour faire cette nouvelle lecture.
Et pourquoi pas?
Quelques nouveautés en rafale.
Ça veut dire que l'émission tire à sa fin, mais qu'avant, j'ai envie de vous présenter peut-être d'autres livres que vous auriez envie d'aller vous chercher au SQLA, surtout qu'ils viennent de sortir dans les semaines qui viennent de passer. J'ai envie de vous proposer Le bal au Kremlin de Curzio Malaparte, j'imagine qu'on prononce bien comme ça, ça s'écrit comme ça se prononce, M-A-L-A-P-A-R-T-E. Nous sommes à Moscou en 1930, la révolution qui s'embourgeoise, la haute société communiste s'amuse avant le bain de sang. En poste dans la capitale soviétique, Malaparte fréquente les soirées élégantes de la nomenclatura. Il y croise Bulgakov, Mayakovsky désespéré, mais aussi la sœur de Trotsky ou encore une danseuse étoile du Bolchoï et bien sûr Staline, dont l'ombre plane déjà sur toutes les têtes. La noblesse marxiste de l'URSS, société de parvenus dans ses fastes avant la chute, tel est le véritable sujet de ce récit. Dans Actualité, avec deux T, on disait le 14 octobre 2013, ce que l'on appréciera avant tout, c'est la clarté du chroniqueur qui n'y va jamais par quatre chemins. Il parle ainsi de la société de Moscou comme d'un miroir qui singe la société européenne, mais qui est dominé par la peur. Esclave pendant 12 ans, oui, ça vous rappelle sûrement quelque chose, puisque c'est le titre du film du même nom qui est sorti. C'est tiré de ce livre écrit par Northrop Solomon, qui était cette esclave, qui au départ n'était pas du tout esclave, mais qui a raconté ses 12 années de souffrance et de captivité sans tomber dans la haine aveugle. Je me dis, à défaut peut-être d'avoir vu le film, peut-être serez-vous intéressé par lire le livre. Alors, il décrit là sa vie terrible dans les plantations, c'est sans concession, mais il n'incrimine absolument pas tous les Blancs. Il incrimine surtout l'éducation reçue par les enfants qui implantent dès leur plus jeune âge l'idée de supériorité. Quel que soit le maître, la violence est omniprésente. Il y a des scènes, aussi bien dans le livre que dans le film, qui sont vraiment insoutenables, comme par exemple la séparation d'Elisa et de ses enfants, ça c'est une scène terrible. Et puis aussi l'obligation pour Solomon Northrop, rebaptisé Platt, de fouetter la jeune Patsy. Hein. Il lui demande à ce moment-là, c'est lui-même qui prend le fouet. Alors voilà, au départ c'est un homme libre, respecté, aimé et entouré par une famille et des amis. Et il a vu sa vie détruite par le racisme et le mépris des hommes pour la vie d'autrui. Monsieur Northrop est l'un des rares noirs ayant connu cette déchéance et surtout qui s'en est sorti. Il y a un lecteur du livre qui nous dit « Si vous voulez lire un livre sur l'esclavage, lisez 12 Years a Slave ». Ça, c'était le nom en anglais. Je vous rappelle en français, c'est « Esclave pendant 12 ans ». Northrop Solomon, le prénom c'est N-O-R-T-H-U-R-P. Ça, c'est son nom d'ailleurs, je pense. Et Solomon, c'est son prénom, certainement. Non, je ne suis pas sûre. Bon, et Solomon, c'est S-O-L-O-M-O-N. J'adore les visages autour de moi, parce que dans ces cas-là, on n'a pas de caméra, hein, mais dans ces cas-là, je regarde vite fait les autres. Et là, vraiment, ça m'a fait non, on ne sait pas. C'était vraiment traître. Merci beaucoup pour votre soutien, mes camarades. Alors, je confirme que Solomon est bien son prénom. Et pourtant, dans le film, en plus, c'est vrai qu'il le dit à un moment donné, parce que quand ils lui disent « Maintenant, tu vas t'appeler Platt », ils disent « Pas Platt, mon prénom, c'est Solomon. » Ça vient juste de me revenir. Bien, bravo, Sey. Un autre livre dont j'ai envie de vous parler, alors on change complètement de genre, c'est « La force des discrets ». Deux points. « Le pouvoir des introvertis dans un monde trop bavard ». Êtes-vous un introverti? Êtes-vous une personne, vous savez, de ces gens dont on pense qu'ils sont tellement discrets qu'on a l'impression qu'ils font la gueule? Non, non, il n'est pas vraiment comme ça, Jean-Sébastien. Il est introverti, mais on peut pas... Il est discret aussi, mais... Oui, Romain, oui, c'est vrai, c'est tout à fait Jean-Sébastien. Alors, la discrétion a-t-elle décidé de se faire remarquer? Faut-il y voir... Attendez, je me suis un petit peu perdue là. On nous dit, voilà, tant sous la plume de Suzanne Cain, qui est une formatrice en entreprise, que sous celle du philosophe Pierre Zawi ou de la blogueuse Sophia Dembling, ce trio hétéroclite s'est mis en tête de mettre sous les projecteurs ceux qui ne cherchent pas à faire parler d'eux, ni à parler tout court, pas plus à se mettre en scène, ni à se montrer. Et on nous présente, et ceux qui ont décidé voilà, de faire de la discrétion une valeur à contre-courant d'une pensée dominante qui, en sens, via un marché de coaching, ça c'est vrai, et des méthodes de développement personnel en plein essor, hein, l'autopromotion et l'affirmation de soi. La blogueuse américaine Sophia Dembling se livre à une réhabilitation des défauts supposés, voire rédhibitoires, des personnes discrètes, les égrenant un à un pour mieux en prendre le contre-pied systématique. S'il se tait, c'est parce qu'il pense intensément. Je vois déjà la fumée qui lui sort par les oreilles à lui, tellement il pense en ce moment. S'il a l'air de s'emmerder dans les soirées, c'est pour mieux observer finement le monde qui l'entoure. Et s'il ne manifeste pas le discret, il n'en est pas moins révolté intérieurement, etc. Peut-être allez-vous vous reconnaître dans ce livre et vous dire que finalement, ben, c'est peut-être pas plus mal d'être indiscret. Et là, je me reprends quand je dis d'être indiscret, d'être indiscret, hein, on s'entend, ou une discrète. Et puis alors, complètement encore autre chose, ça c'est le polar du jour, Meurtre pour rédemption de Karine Giebel, ou Giebel, G-I-E-B-E-L. C'est une femme qui est en prison, en tôle d'ailleurs, ce serait mieux de dire cela, parce que c'est vraiment pas un livre pour vous faire rêver, c'est un livre extrêmement dur, ce n'est pas un livre à l'eau de rose. C'est un livre qui dépend parfaitement des conditions de vie derrière les hauts murs des prisons et une histoire d'amour absolument glauque entre cette femme-là et celui finalement qui va lui fournir ses cigarettes contre des services que l'on peut imaginer, mais que finalement, il développe quand même quelque chose d'amoureux. C'est un livre à lire. Une petite citation, j'ai le temps, en face d'elle, sur le mur décrépit, une citation taguée par un prisonnier il y a longtemps ou par un maton. Une phrase qu'elle n'oubliera jamais. Nous ne pouvons juger du degré de civilisation d'une nation qu'en visitant ses prisons. C'était du Dostoïevski. Je vous rappelle ce titre de Karine Giebel, G-I-E-B-E-L, Meurtre au pluriel pour rédemption. C'est à ne pas manquer. Je voulais vous parler de La faiseuse d'anges de Camilla Läckberg, mais je vais garder ça pour la semaine prochaine. Mes amis, je voudrais remercier mes invités aujourd'hui, Suzanne Vida, Mathieu Prost et Isabelle Falardeau. Merci à Jean-Sébastien La Liberté, le discret. Merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine de lecture. Bon livre et à la semaine prochaine pour une autre édition de Un livre découvert.